Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes toujours avec ce cours de liturgie dans la discipline qu'on appelle la liturgie comparée. J'ai déjà expliqué dans les cours précédents l'intérêt du comparatisme liturgique. Je pense que l'intérêt de cette méthode, cette discipline, c'est que ça nous renseigne sur l'origine et sur l'évolution des divers usages liturgiques. Donc c'est une question de connaissance. Enfin, c'est intéressant de savoir comment fonctionne le système, d'où est-ce que ça vient et comment ça existe. Enfin, c'est une vision historique surtout, hein, le comparatisme liturgique, c'est quand même quelque chose qui appartient à l'histoire de la liturgie. Oui, ça, c'est une discipline à caractère historique, oui. Et ça permet quand même d'officier avec une conscience plus profonde. Et quand je dis ça, je pense non seulement aux prêtres, mais aux fidèles, qui également sont des officiants. Quand on parle d'officier, il ne s'agit pas que du prêtre, de l'évêque ou du diacre, mais de l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc c'est vrai qu'en connaissant mieux ce que l'on fait, en pouvant comparer avec d'autres façons de prier, ça permet d'être plus conscient. Le comparatisme donne un recul. Ce n'est pas du relativisme, si vous voulez, mais ça donne un recul et ça permet d'apprécier ce qu'on a à faire et de le faire mieux, je trouve. Je sais que de ma propre expérience, ayant l'expérience d'avoir célébré la liturgie occidentale pendant longtemps et de célébrer encore de temps en temps, d'ailleurs, la liturgie dite selon Saint-Germain de Paris, donc une liturgie qui avait été acceptée par le patriarcat roumain dans les années 70 et qui a été largement utilisé. Et moi, c'est vrai que le fait de connaître deux façons de célébrer, ça me donne, une ouverture, une sensibilité, une conscience, et je dois dire que je l'apprécie d'autant plus, par exemple, la liturgie selon Saint-Jean Chrysostome, parce que j'ai justement ce recul. Donc je trouve finalement le fait de pouvoir comparer, c'est important, et ça permet aussi de ne pas absolutiser tout de même. Je dis que c'est pas du relativisme. C'est pas du relativisme dans le sens négatif, si vous voulez. Mais ça évite d'absolutiser une forme liturgique. Qu'est-ce que vous voulez? La liturgie selon Saint-Jean Chrysostome, ce n'est pas l'évangile. Il y a d'autres formes liturgiques. Il y en a eu d'autres. Il y en a peut-être d'autres encore. Il peut y avoir une évolution. Il peut y avoir d'autres formes. Vous voyez, il faut faire attention quand même de ne pas absolutiser ce qui ne doit pas l'être. Et je rappelle à cet égard que sur l'autel, dans l'Église, on ne trouve que les quatre versions de l'Évangile, on ne trouve pas les épîtres de l'apôtre Paul, on ne trouve pas les actes des apôtres, on ne trouve pas la Bible, on ne trouve pas les psaumes, et on ne trouve pas la liturgie. C'est la raison pour laquelle les prêtres ne doivent pas poser la liturgie sur l'autel. Il va avoir un petit embon à côté, ou éventuellement sur l'autel, un petit support en métal doré façon or massif, mais la liturgie n'a pas à être posée sur l'autel, parce que la poser sur l'autel, ça veut dire qu'on lui donne la même autorité qu'à l'évangile lui-même. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais est-ce que vous voulez... Bien sûr, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr que le Saint-Esprit a inspiré non seulement l'ensemble de l'Écriture, mais également la tradition liturgique, mais il l'a inspiré, comment dire, il l'a inspiré de façon contextuelle quand même. Il l'a inspiré de façon contextuelle. Donc, il peut se trouver quelquefois que des prières soient difficiles à comprendre, par exemple, parce que ça a été écrit dans un certain contexte. Moi, ça ne me frappe pas, personnellement, aucune des prières de la liturgie selon Saint-Jean Chrysostome, et encore moins de la liturgie selon Saint-Basile, ne me paraît déplacée. Je veux dire, ces prières m'apparaissent d'une universalité, d'une actualité absolument extraordinaire. Mais peut-être qu'il y a des passages qui sont très contextuels, franchement, je n'ai pas remarqué, hein, mais je pense que j'ai une grande admiration pour la liturgie et selon Saint-Jean Chrysostome et selon Saint-Basile, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à enlever, et je ne fais pas partie, par exemple, des personnes qui enlève le renvoi des catéchumènes, des choses comme ça, je pense que ça fait partie de la liturgie, il ne faut pas y toucher. Puis, donc, je serais plutôt traditionnaliste dans ce domaine-là, mais même avec la mentalité qui est la mienne, je pense qu'il faut faire attention et que la liturgie, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, si vous voulez. Et alors, encore moins, si c'est, là je parle de la débénitogie, mais encore moins si on pense aux offices. Les offices, vous voyez, ils sont principalement composés à partir de textes bibliques, mais comme je viens de vous dire que la Bible elle-même n'est pas sur l'autel, et les offices comportent, je rappelle, les canons, surtout l'office de matine. Or, le canon est une composition patristique, il y a des strophes patristiques, et quelquefois, franchement, là, pour le coup, quelquefois, certaines compositions patristiques qu'on trouve dans les canons, dans les strophes, dans certains repères, en particulier dans le livre des Ménées, quelquefois, ces textes ne sont pas tellement bons. Ils ne sont pas tellement bons, ils sont un peu fragiles, ont été écrits en... Je sais pas, un peu copié sur d'autres textes, il y a un peu des banalités, il y a beaucoup de redites, il y a quelquefois des choses qui ne sont pas tout à fait exactes du point de vue théologique. Je ne verrai pas qu'on pose le ménologe, par exemple, les ménés sur l'autel, c'est pas possible, vous voyez, pas possible. Mais bon, on les lit quand même, mais pour dire, si vous voulez, il y a quand même des textes doivent être mis à leur place. Alors, tout ça pour dire que notre relation avec la liturgie, c'est une relation infiniment respectueuse, mais tout de même, nous admettons qu'il y a des phénomènes évolutifs, qu'il y a des changements, qu'il y a des emprunts, qu'il y a des usages différents, il y a des usages très différents d'une église à l'autre. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Par exemple, dans l'office de matine, nous suivons l'église roumaine ou l'église russe, nous suivons l'usage de lire le dimanche l'évangile de la résurrection après les éblogitaires de la résurrection, ce qui paraît logique d'ailleurs, et avant le psaume 50. Et puis le canon de la résurrection, ou de la fête, s'il y a une fête qui correspond, suit. Eh bien, l'usage grec, depuis longtemps, depuis le 19e siècle, un nouveau typicon de la grande église, a déplacé la lecture de l'évangile, et l'évangile est lu à la fin du canon des matines. Donc ça fait une différence assez importante. On s'en accommode, mais c'est pour vous dire aussi qu'il peut y avoir des différences importantes, même dans l'organisation d'un office. Et ceci à l'intérieur de l'Église orthodoxe, donc du système gréco-slave. Alors à plus forte raison, disons, je veux le dire, si on commence à comparer avec l'office de l'Église arménienne, ou syrienne, ou jacobite, ou maronite, romaine, je ne sais pas quoi d'autre, si vous voulez, on trouve des différences qui sont vraiment assez importantes, mais qui ne sont pas graves, mais qui, en tout cas, montrent que même si le patrimoine liturgique est homogène, il n'est pas uniforme, heureusement, mais il est sujet, on voit bien qu'il est sujet à des changements suivant les époques aussi. Il y a eu quand même il y a une créativité dans le domaine liturgique, il y a eu également des phénomènes peut-être de décadence. Je pense que la liturgie, au sens large, c'est-à-dire le corpus liturgique de l'Église, ou des Églises locales, mais de l'Église universelle, c'est un corpus soumis ou enrichi par l'histoire. Il y a quelque chose d'historique dans la liturgie, ce qui est moins le cas pour la liturgie eucharistique, mais pour les offices, pour l'ensemble du corpus liturgique non eucharistique, on va dire, eh bien c'est un corpus qui est vraiment qui est soumis à l'histoire, mais dans le bon sens, vous voyez, c'est-à-dire que la dimension historique et la dimension contextuelle est beaucoup plus importante dans les offices que dans la liturgie eucharistique elle-même. Mais bon, tout ça pour dire que effectivement le comparatisme liturgique, il a son intérêt dans ce domaine-là, vous voyez, parce que ça permet d'avoir un peu ce sens, si vous voulez, de la comparaison, bien sûr, mais d'avoir du recul, vous voyez, par rapport aux offices qu'on célèbre. C'est intéressant, je trouve, personnellement. Et puis, par ailleurs, il ouvre, le comparatisme liturgique, toujours, ouvre à la perception de l'universalité. C'est assez important. Moi, je vois ça, beaucoup de mes collègues de prêtres de notre Église orthodoxe ne connaissent absolument pas l'existence d'autres formes liturgiques que celles qu'ils pratiquent, c'est-à-dire la liturgie selon Saint Jean Chrysostome et le rite byzantin, et donc ils ont même de l'orthodoxie une conception un peu étroite quelquefois, vous voyez. Alors il y en a quand même quelques-uns qui savent qu'il y a une liturgie selon Saint Jacques quand même, qu'il y a une liturgie selon Saint Marc, bon, mais quels sont ceux qui savent qu'il y a eu une liturgie, qu'il y a le rite ambrosien, qu'il y a le rite mozarabe, que le rite romain lui-même est vénérable dans sa forme ancienne, qu'il y a eu des liturgies célébrées dans les provinces gauloises autrefois qui étaient différentes. Et c'est dommage de ne pas savoir ça, parce que ça c'est intéressant, et ça veut dire aussi qu'on s'ouvre à l'universalité de l'Église elle-même. Je crois l'avoir dit dans des cours précédents, il y a un lien absolument fondamental, ontologique, entre la liturgie et l'Église. Donc s'intéresser à l'universalité de l'orthodoxie à travers la liturgie, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'Église, qu'on a une conscience ecclésiale, et qu'on a un intérêt pour l'ecclésiologie. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment très important. Le rapport entre la liturgie et l'Église, entre telle liturgie et telle Église locale, et après ça, les emprunts qui se font d'une Église à l'autre, ça signifie aussi la communion entre les chrétiens, après ça signifie beaucoup de choses, c'est vraiment très important. Bon, donc, au fond, c'est ça peut-être l'idée qui m'intéresse le plus, c'est que je pense que l'étude de la tradition liturgique conduit à une réflexion ecclésiologique, y compris quand il y a des observations un peu négatives à faire. On observera que telle liturgie est trop pauvre dans tel ou tel domaine, donc qu'elle perd de sa catholicité. Il faut que la liturgie soit catholique dans le sens de la catholicité, c'est-à-dire exprimer la totalité, la plénitude de la foi de l'Église. Il faut que la liturgie soit la liturgie de l'Église, et pas seulement d'une Église. Même si elle est la liturgie d'une Église, ce qu'il faut admettre, si on s'intéresse au lien entre la liturgie et l'Église locale, elle est peut-être la liturgie d'une Église, mais elle doit être simultanément la liturgie de l'Église, c'est-à-dire pouvoir, tout chrétien, tout orthodoxe des autres Églises locales doit pouvoir se reconnaître dans cette liturgie, même s'il ne la pratique pas, et reconnaître la plénitude de la foi à laquelle il adhère. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, universalité de la foi, universalité du rite, universalité de l'Église, ça va ensemble. Ça ne veut pas dire uniformité du rite, ça ne veut pas dire uniformité de l'Église, et ça ne veut pas dire non plus uniformité de la foi, d'ailleurs, parce que la foi chrétienne elle-même s'exprime de manière variée, enfin, suivant justement les cultures, il peut y avoir des accents, en particulier dans le domaine de l'iconographie, on voit très bien que la foi unique et homogène, n'est pas uniforme dans son expression. Il y a des éléments canoniques absolument indispensables, mais il y a des variétés aussi. C'est un thème que vous m'entendez aborder presque chaque fois, je pense, cette question de la diversité et de l'unité, et cette question de l'universalité de l'Église qui nous préoccupe beaucoup. Je pense qu'elle nous préoccupe beaucoup parce que la discussion sur le plan œcuménique doit arriver à l'universalité. L'œcuménisme, malheureusement, le comportement œcuménique des chrétiens ne tend pas toujours à l'universalité. Il est quelquefois assez relativiste. Il consiste à des sortes d'arrangements, sortes de diplomatie ecclésiastique, mais qui ne se fait pas qui ne contribue pas, disons, à consolider la catholicité et l'universalité de la foi. Il faut faire extrêmement attention. Je donne toujours le même exemple. Tant qu'il y aura des chrétiens qui pensent être chrétiens sans pouvoir nommer la Vierge Mère de Dieu, ça veut dire qu'on sera obligé de constater qu'il y a un certain retard dans l'unité de la foi des chrétiens. Voilà. Alors, donc la liturgie comparée, je l'ai déjà dit, s'attache par exemple, à l'étude parallèle des offices. Pensez bien, à partir du moment où on commence à faire de la comparaison dans le domaine liturgique, ça n'arrête pas. Mais avant, si vous voulez, d'aborder la comparaison entre la liturgie eucharistique, ce qui est un gros travail, qui est un travail extrêmement intéressant, ici, ce que je propose, c'est plutôt de partir de ce que j'ai comme élément ici, qui sont plutôt des études parallèles des offices, c'est-à-dire comparer qu'est-ce que c'est que l'office de matine dans les systèmes gréco-slaves ou byzantins, dans les systèmes arméniens, dans les systèmes gallo-romains, dans les systèmes romains, qu'est-ce qu'on trouve de commun, qu'est-ce qu'on trouve de différent, et qu'est-ce que ces comparaisons, justement, attestent, en quoi cette comparaison permet d'attester l'universalité. Je crois que c'est ça que je veux dire, au fond. La comparaison liturgique, c'est ça que je veux dire, atteste l'universalité et de la foi, et de l'Église elle-même, et du culte chrétien. Alors, bien sûr, cette universalité du culte chrétien, elle a un fondement dans l'Église de Jérusalem. Ça, c'est une idée qui a déjà été exprimée, je pense, ici. Il faut revenir de temps en temps là-dessus. C'est pratiquement toutes les formes de culte, du culte chrétien, dans toutes les églises locales qui peuvent exister, toutes ces formes-là sont issues, bien entendu, de l'expérience de la première église de Jérusalem, évidemment. Donc c'est toujours possible de revenir à la source. Je le ferai dans un prochain cours. Je crois que je consacrerai le temps à vous présenter certains passages du journal de voyage d'Éthérie, dont j'ai déjà parlé, mais c'est très intéressant parce que c'est elle qui décrit les pratiques liturgiques à Jérusalem à l'époque où elle y était. Donc on va dire, il y a parmi les liturgies que j'utilise beaucoup le livre d'Antoine Baumstark qui s'appelle justement Liturgie comparée. Je le cite en bibliographie, Liturgie comparée, Shefton 1953. Et donc lui, il a dressé des tableaux, c'est un monsieur, c'est un savant, hein. Alors il a dressé des tableaux comparant les rites jacobites et grecs orthodoxes, non seulement avec les renseignements fournis par le voyage d'Éthérie sur le cul de l'ancienne Jérusalem chrétienne, mais encore avec le bréviaire romain et les coutumes du monachisme gaulois, et qui était lui-même intimement lié à la tradition syrienne, figurez-vous. Donc ça, là aussi, il y a une remarque à faire en passant, c'est que nos notions d'Orient et d'Occident sont des notions quand même assez relatives et qui peuvent être bousculées de temps en temps. L'Orient et l'Occident, en fait, c'est plutôt une définition géographique, c'est-à-dire que ça peut éventuellement se rapporter aux deux parties de l'Empire, à toutes les époques d'ailleurs, particulièrement aux époques où il y a eu deux empereurs, où est apparue donc effectivement une deuxième Rome. Alors, effectivement, peut-être que géographiquement parlant, mais enfin, il faut faire très très attention. Enfin, attention, la notion d'Orient et d'Occident, c'est une notion extrêmement relative. Il faut savoir que, par exemple, pour les chrétiens de Perse, eh bien, les occidentaux, c'était les gens d'Antioche. Vous voyez, donc c'est-à-dire ce qui est à gauche sur la carte, ça devient l'Occident pour ceux qui sont à droite sur la même carte. Ce ne sont pas des notions extrêmement intéressantes. Et en plus, on s'aperçoit que l'interpénétration des cultures est telle qu'on va trouver, comme je viens de dire à l'instant, dans la tradition liturgique gallo-romaine ou gauloise, on va trouver des apports ou des emprunts, par exemple syriens. Vous voyez. Il y a quelques années, je n'ai plus les éléments précis en tête, mais il y a eu une exposition à Paris qui était très intéressante, qui était justement sur les apports byzantins dans l'art liturgique gallo-romain, en Bourgogne en particulier. Bon, les gens, qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas attendu le XXe siècle pour voyager, on n'a pas attendu le XXe siècle pour communiquer. Bien sûr, les communications et les voyages se faisaient beaucoup plus lentement, incontestablement. Mais ils n'avaient pas de SMS pour transmettre leurs pensées à la seconde. Ils n'avaient pas d'avion pour se rendre tout de suite à Jérusalem en quelques heures de vol. On sait très bien ça. N'empêche que les communications existaient, les voyages existaient, les pèlerinages ont joué un rôle très 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 important dans la communication des idées parmi les chrétiens. Les visites, les synodes, les exils. Mais oui, les exils, c'est très important. Quand saint Athanase a été exilé à Trèves, vous pensez bien qu'il a découvert en voyage quantité de pratiques chrétiennes auxquelles il n'était pas habitué. Donc l'exil, même les guerres, même des moments pénibles pénibles de l'histoire chrétienne ont contribué quand même à des formes, à des échanges. C'est ce qu'on appelle la chrétienté, si vous voulez, bien, fonctionnait quand même comme un organisme unitaire, assez bien, parce que nous sommes habitués à une situation différente, mais qui est récente, parce que nous pensons, nous pensons à l'emprisonnement, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut appeler ça, l'emprisonnement de l'orthodoxie dans certains pays sous le système turc, le système ottoman. Nous pensons aussi, bien sûr, à la captivité de l'orthodoxie en pays communiste. Et bien sûr, ce sont des phénomènes objectifs et qui ont empêché les chrétiens de communiquer. Ça, c'est vrai. C'est vrai que nos frères orthodoxes de Russie, de Roumanie, de Géorgie, de Serbie, de Bulgarie, tous ces pays-là, ils ont été enfermés chez eux par le communisme, c'est incontestable. Mais ce n'est pas une situation, c'est pas une situation ancienne, c'est une situation relativement récente, et ce n'est pas du tout la situation que connaissait le christianisme des époques anciennes. Les migrations de population dont on fait grand cas à notre époque parce qu'elles sont spectaculaires, et figurez-vous que les migrations de population, elles étaient considérables à l'époque ancienne. Les gens quittaient une région pour une autre, poussés par la faim, terrifiés par les épidémies de choléra ou de peste, ou attirés par de l'argent, exactement comme aujourd'hui. Les phénomènes migratoires des populations sont des phénomènes tout à fait habituels. La stabilité, la sédentarisation des populations chrétiennes sur la planète, ça n'a pas toujours été, vrai, vous voyez. Donc tous ces déplacements, tout ceci a favorisé la communication, l'échange et les empreintes dans le domaine du culte. C'est bien, c'est inévitable, c'est ce qui se passe aussi. Par exemple, la présence des orthodoxes en Europe occidentale les a confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale et même auparavant, les a confrontés à des pratiques cultuelles, liturgiques différentes de celles qu'ils connaissaient. Et qui ne sont pas forcément des pratiques hérétiques, c'est vraiment des pratiques différentes. Et c'est pour ça qu'il y a eu, à l'Institut Saint-Serge, un groupe de travail qui s'appelle la confrérie Saint-Phocius, et qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé sur la comparaison des liturgies, sur l'interpénétration des rites, qui s'est intéressé aux liturgies occidentales anciennes. Et oui, parce que les orthodoxes ont été confrontés, grâce à l'immigration, justement, grâce au fait qu'ils ont été projetés dans des pays nouveaux pour eux, et ben, ils ont été confrontés à des découvertes. Ils ont découvert aussi les saints locaux, et ils les connaissaient peut-être, mais ils ont surtout découvert en venant par exemple à Paris. Je pense que Saint-Genès de Paris, les Russes de l'immigration les découvert parce qu'ils sont venus à Paris, si vous voulez. Et donc cet intérêt, si vous voulez, pour les autres, c'est beaucoup dû au déplacement forcé ou voulu des populations chrétiennes. Donc, nos savants comparatistes, comme Antoine Baumstark, ils s'amusent à faire des tableaux, et c'est très intéressant, et dans ces tableaux, ils montrent qu'il y a des similitudes intéressantes entre des liturgies qui se trouvent, officiées dans des pays très éloignés les uns des autres, même par la langue. Voici ce qu'il écrit, notre bon monsieur Baumstark, ou père Baumstark: pour éclaircir l'histoire de l'office grec orthodoxe, le rite arménien, qui à peu de choses près représente généralement une forme ancienne du rite byzantin, sera plus important que le rite syrien. Dans certains cas, on pourra dire la même chose du rite copte. Moins apparenté à ce groupe est le rite syrien oriental des Nestoriens. Mais il offre, ça et là, des points de contact avec l'ambrosien de Milan. Quant à la configuration des offices romains et monastiques, c'est par les usages byzantins, arméniens et syriens occidentaux que souvent on peut l'expliquer. Donc c'est une citation vraiment très intéressante, c'est page 37 de son livre sur la liturgie comparée, vous voyez comment, je ne peux pas vous relire tout, mais vous l'avez bien, je pense, enregistré. D'abord, on apprend quelque chose de très intéressant, c'est que le rite arménien représente généralement une forme ancienne du rite byzantin, ça c'est quand même intéressant, les sources arméniennes du rite byzantin, on n'y pense pas forcément. Et autre chose dans sa citation, regardez les points de comparaison, de contact, dit-il même, entre le rite syrien oriental des Nestoriens, c'est-à-dire qui peut être célébré par les chrétiens d'Irak, hein, avec le rite ambrosien de Milan. Avec le rite ambrosien de Milan, donc c'est la liturgie attribuée à saint Ambroise et qui a été célébrée dans l'église locale, dans la métropole autonome de Milan, pendant des années, pendant des siècles. Hein. Vous voyez ? Comme c'est intéressant. Donc, il ressort de cet exposé une vision très large du monde liturgique chrétien. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est de trouver une perspective qui englobe une perspective inclusive, qui est celle de Dieu, en fait. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de voir comment Dieu voit les choses, si je peux dire. Regardez nos coupoles byzantino-romano-arménio-slaves, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'art liturgique vraiment traditionnel, chrétien. On voit que le Christ Dieu, eh bien, il est celui qui contemple du ciel, il contemple la célébration de son peuple. Alors il est à la fois le chef de cette célébration, c'est pour ça qu'il est à sa place dans la coupole en tant que tête, hein, mais il est aussi celui qui voit cette célébration, qui en est le témoin, qui l'a béni, qui l'atteste, qui la vérifie, qui la valide, on a cherché l'expression. Il est celui qui la valide et qui la reçoit, parce que on dit du Christ dans la Sainte Liturgie qu'il est celui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué. Donc il est exactement dans cette position-là. Le Christ est à la fois celui qui offre, qui s'offre lui-même d'ailleurs, et celui à qui les prières et les liturgiques sont offertes. C'est assez complexe. Et en même temps, il est celui qui, ayant reçu l'offrande du peuple de Dieu, présente à son tour cette offrande au Père Céleste, parce qu'il est celui qui se présente auprès du Père en sacrifice agréable. Donc ça il le fait, mais pas seulement pour le rite byzantin, vous voyez, c'est chaque fois qu'il voit dans dans le grand nombre du peuple chrétien confesseur de la vraie foi quand même, hein, confesseur de la vraie foi, que chaque fois qu'il voit des formes liturgiques agréables, belles, authentiques, il les reçoit, il les accepte, il les valide. C'est intéressant de penser que, vous savez, dans la liturgie, on demande au peuple de dire Amen. C'est-à-dire que l'évêque fait une proposition, le prêtre fait une proposition, pas le diacre, mais c'est intéressant, le prêtre et l'évêque, en tant qu'ils sont iconographiquement à la présidence de l'Église, font une proposition et le peuple valide cette proposition par sa réponse, par son consentement. Et l'expression de ce consentement, c'est le fameux Amen, qui est indispensable. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais dire, c'est que nous avons également le mouvement symétrique, hein. C'est-à-dire que Dieu aussi, à sa place, valide nos offrandes, quand il les reçoit, qu'il les bénit, et qu'il les considère comme conformes à sa volonté, et agréables au Père Céleste. Donc le Amen, ça n'a pas beaucoup été dit, mais on peut le dire, je vais dire pourquoi. Le Amen est également une expression qui appartient à Dieu. Dieu aussi valide, Dieu aussi dit Amen. Et je dirais, pour soutenir mon propos, que c'est dit dans l'Apocalypse. Le mot Amen c'est presque un nom de Dieu. Enfin, retrouver, je n'ai pas apporté là ce soir le texte, mais vous trouverez dans l'Apocalypse un passage où le Christ, qui est donc Dieu lui-même, hein, qui est Dieu lui-même, Dieu le Dieu homme, dit qu'il est « Je suis l'Amen ». Ça, c'est, ah, c'est pratiquement. Donc, ça, c'est, alors, ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'il y a le consentement, il est des deux côtés. Il est du côté du peuple et il est du côté de Dieu. Comme d'ailleurs dans notre pratique liturgique paroissiale ou diocésaine, l'amen est du côté du peuple, mais il est également du côté de l'évêque. Il peut y avoir des propositions faites par le peuple et qui demandent la bénédiction de l'évêque. La bénédiction de l'évêque, c'est pareil. C'est comme si quand l'évêque bénit, c'est-à-dire autorise, sanctifie et consacre une proposition venant de notre part, c'est exactement comme s'il disait amen. Donc l'amen était des deux côtés. C'est très intéressant. Alors, on peut avancer un petit peu en disant, en parlant de l'interpénétration des rites, signalé ici par Antoine Baumstark, vous l'avez bien compris, ça suppose une communication réelle, bien sûr, entre les églises locales, une communication dont j'ai parlé, donc des voyages, des échanges de correspondances, ainsi que la connaissance des langues respectives. À propos des correspondances, je voudrais citer un exemple qui peut vous intéresser ou que vous pouvez vérifier par vous-même si vous en avez le temps. C'est le cas de la correspondance de Saint Basile de Césarée. Il y a aux éditions Guillaume Budé trois volumes de lettres de Saint Basile adressées à des évêques de, je dirais pas de la terre entière si vous voulez, mais enfin quelquefois très éloignés géographiquement les uns des autres. Et on voit justement comment les évêques correspondaient entre eux. Donc la correspondance et la connaissance des langues respectives. Alors ça, cette question de la connaissance des langues respectives, c'est beaucoup plus problématique. Nous avons, en étudiant un peu l'histoire de l'Église, nous avons l'impression que justement, c'est dans le domaine linguistique que le bas a blessé. C'est dans ce domaine-là que les malentendus ont commencé à apparaître. La langue grecque s'est imposée comme la langue de l'Empire jusqu'au IIIe siècle, vous le savez, mais ça a masqué la diversité linguistique qui était réelle dans l'Empire lui-même. Et souvent, je pense, j'ai l'impression, je me trompe certainement parce que je ne connais pas bien tout ça, mais j'ai l'impression que souvent, on s'est permis de parler cette langue grecque qui était la langue de l'Empire, sans se soucier de savoir si elle était bien comprise et bien intégrée par le peuple qui était présent à cet endroit-là. Oui. Bon. S'il y a des personnes qui parlaient grec entre elles dans l'église de Lyon, par exemple, je ne sais pas si elles pouvaient être sûres que le peuple qui venait dans les paroisses de cette ville comprenait vraiment le grec quand on parlait. Oui. Je pense qu'il y a le malentendu, la mauvaise compréhension, les contresens linguistiques. Je crois que malheureusement, ça appartient à des siècles assez anciens de l'Église, et c'est une des causes des schismes. Nous ne nous faisons pas trop d'illusions. La mauvaise connaissance du grec par les latins de l'Occident et l'ignorance probablement totale du latin par les hellénophones de l'autre côté, de Constantinople, ça a pu jouer vraiment un rôle important dans la difficulté à se comprendre. Et on pourrait parler des schismes très tristes, très, très graves et très, très lourds à porter historiquement, comme le schisme des non-calcédoniens. On sait très bien que, quand on était copte, quand on était syrien, quand on était éthiopien, érythréen, peut-être qu'on pouvait ne pas comprendre la langue grecque, parce qu'il faut vraiment. Oui, c'est trop difficile. Il y a un moment, ça devient trop difficile. Trop difficile. Et donc, l'incommunicabilité linguistique est certainement quand même une caractéristique de l'histoire chrétienne. Et après ça, donc, on dit que les gens confessent pas la même foi, mais enfin, ce qu'on a bien cherché à comprendre ce qu'ils disaient dans leur langue. C'est pas absolument sûr. Donc, j'espère quand même que dans l'Église ancienne, il y avait quand même cette connaissance linguistique, elle devait exister quand même, parce que les emprunts n'auraient pas été possibles. Comment est-ce qu'on aurait pu emprunter telle forme liturgique à telle autre église si on n'avait pas compris un peu la langue dans laquelle ces gens s'exprimaient? quand même. Il devait y avoir dans l'épiscopat, chez les grands moines cultivés, des personnes capables de faire les traductions, capables par exemple de recevoir les textes de saint Isaac le Syrien, de les traduire en grec. Les traductions en grec sont assez anciennes quand même. Il y a eu, je crois, un peu toujours des gens capables de traduire en grec, ce qui venait des milieux non grecs. Ah bon, donc ça s'est à étudier de très près. Il faut que quelqu'un fasse une thèse là-dessus, mais c'est très très difficile. Étudier ce sujet-là. Quelle était la capacité de compréhension linguistique entre les chrétiens au 4e siècle, à l'époque des synodes, bah oui. On aimerait bien savoir. Moi, je sais par la lecture que, par exemple, saint Antoine le Grand, ne parlait pas le grec du tout, mais pas un mot. Ah, oui. Alors, donc, un très grand personnage de l'histoire du christianisme ne parlait pas un mot de grec. Et on le sait très bien, puisque quand des visiteurs venaient le trouver, il fallait qu'ils viennent avec un interprète. On sait ça par l'histoire losiaque, je crois que c'est dans l'histoire losiaque qu'on lit en ce moment pendant le carême à l'office de Matines tous les jours. Et il me semble bien que c'est dans l'histoire losiaque qu'est-ce que c'est dit que le Palade, qui est l'auteur de cette histoire losiaque, il se trouve avec des visiteurs à aller rencontrer Antoine, et justement, quand Antoine vient, il faut absolument qu'on ait un interprète, parce qu'Antoine ne parle pas le grec. Donc il parle l'égyptien, il parle le copte. Il ne parlait pas l'arabe non plus, parce que ça arrivait après. Et donc c'est un fait. C'est un fait. Et là, on est au 4e siècle, donc au 4e siècle, les gens étaient obligés d'utiliser des traducteurs. Voilà. Donc ça fait partie de la réalité aussi, vous comprenez tout ça. Bon, cela dit, donc malgré ces difficultés qui ont dû être réelles, qui restent réelles à notre époque, en fait, quand même, ce phénomène d'échange a existé, et ça veut dire que les diverses traditions liturgiques ne sont pas séparées par une cloison étanche. Au contraire, elles communiquent, elles s'influencent mutuellement, elles se font l'une à l'autre des emprunts qui contribuent à leur enrichissement. Toutefois, il n'est pas toujours facile d'expliquer ces emprunts. Il semble que souvent c'est la beauté de telle ou telle forme qui motivera l'emprunt. Dans d'autres cas, au lieu de se réjouir d'un enrichissement, une tradition locale a profité d'une simplification. Et puis, je pense qu'il y a des raisons dogmatiques également. Le fait que, je n'ai pas l'exemple à l'esprit tout de suite, j'aurais dû le noter, pardon, mais il est possible que des emprunts aient été faits, par exemple des hymnes comme Fils unique et Verbe de Dieu. On sait à peu près à quelle époque ils ont été introduits dans la liturgie. On sait que les hymnes mariologiques, c'est-à-dire que appelant la vérité autochtone, on sait très bien que ce sont des acquisitions liturgiques qui sont liées au concile. Donc la liturgie a aussi bénéficié des apports dogmatiques des différents conciles œcuméniques. Vous voyez, ça aussi, c'est une façon aussi de décrire l'enrichissement des liturgies. Alors, il y a un exemple intéressant dans ce domaine de la comparaison, c'est l'exemple de l'exapsalme. Alors, je vais essayer d'avancer un peu, je vois que le temps passe. L'exapsalme, qui est donc ce groupe de 6 psaumes, lus invariablement au début de l'office de matine, dans l'usage gréco-slave, c'est-à-dire l'usage de l'Église orthodoxe actuelle. Ce sont, rappelons-le, les psaumes 3, 37, 62, 87, 102 et 142, parce que tout le monde doit savoir, d'ailleurs, que propose le grand horloge ou livre d'heures. Je vous signale que l'archevêque Job Getcha parle bien de ça dans son livre qui s'appelle « Le Typicon décrypté ». Je vous renvoie aux pages 81 à 84. Et il y a une bonne description justement du début de l'office de matine, si j'avais le temps je vous le lirai. Et alors, c'est cet ensemble qui est lu par un seul chantre au milieu de l'église, dans une lumière tamisée, à voix d'ailleurs modeste, enfin c'est pas proclamé, c'est dit avec une certaine intériorité, et fait de deux parties, deux triades séparées par la doxologie, le triple Alléluia. Vous savez, on dit Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu, et ça on le dit trois fois. Le triple Kyrie, Kyrieleison, 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 et une nouvelle doxologie. Entre les deux triades, la doxologie ne comporte pas de métanie pour indiquer qu'il s'agit d'un ensemble psalmique unitaire. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de métanie entre les deux triades? Ben, c'est pour ça. C'est un sens. Oui. Ce qui se fait dans la liturgie, c'est un sens. C'est pour ça que c'est très important de respecter le typicon, de respecter le gestuel. Parce que ce qui s'y trouve, si vous voulez, a généralement une signification qu'on doit apprendre à connaître. En revanche, après le psaume 142, la forme doxologique comporte les métanies habituelles. Et j'en profite du reste pour souligner le lien quand même entre la parole et le geste. Alors ça, évidemment, on sort un petit peu du comparatisme liturgique, parce qu'on ne sait pas tout du gestuel des autres églises. Là, la comparaison, je la fais, nous la faisons surtout par rapport au texte et par rapport au rite. Maintenant, il y aurait une comparaison à faire concernant le gestuel, concernant l'iconographie, concernant la musique liturgique. Enfin, vous savez, la comparaison entre les différents usages de la tradition, c'est immense, bien sûr. Donc, en tout cas, en ce qui concerne le geste, j'en profite quand même pour dire qu'il n'est pas arbitraire et que la métanie, par exemple, commence par le signe de la croix et se continue par l'inclination du buste ou, dans le cas décrit ici, c'est-à-dire la fin de l'exapsalme, par la moyenne métanie, c'est-à-dire celle où l'on touche le sol du bout des doigts, et non pas une métanie, une grande métanie, hein. C'est ce qu'on appelle la moyenne métanie. Et profitons-en également pour montrer la structure de cette doxologie. Ça, oui, c'est important, c'est un peu une parenthèse, mais j'en profite, si vous voulez, pour en parler. La structure de cette liturgie entre ou après les psaumes. Sa caractéristique générale est l'alternance de la louange et de la supplication. Gloire au Père, Kyrie eleison. Alléluia, Kyrie eleison. C'est-à-dire qu'on alterne. Bien, ceci relève d'un équilibre important que l'on retrouve dans l'ensemble des formes liturgiques telles qu'elles sont conservées jusqu'à nos jours dans l'Église orthodoxe. Partout, il y a cet équilibre entre louange et supplication. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, même dans les prières initiales, faire attention de les dire bien, de les dire complètement, de façon à ne pas casser cet équilibre entre louange et supplication. Maintenant, il y a encore une observation qu'on peut faire qui est intéressante concernant justement les psaumes. C'est que le psaume 62, qui est ici donc à la position numéro 3, ce psaume 62 est un psaume très important. Alors justement, on revient au domaine de la comparaison. C'est le psaume matinal de l'Antiquité chrétienne. On le retrouve, c'est un psaume très très ancien. La première communauté chrétienne disait ce psaume-là le matin. On sait que sa place était une place de clé de voûte dans l'office, et on le sait par Saint Jean Chrysostome, dans une homélie sur le psaume 140, si je me trompe. Et on sait également par un ouvrage attribué à Saint Athanase, que ce psaume 62, je ne me trompe pas, oui, avait une place. Et ici, on dirait qu'il a une place mineure, parce qu'il vient en numéro 3. En fait, je vais expliquer que c'est pas ça. Par exemple, dire par ailleurs, les constitutions apostoliques lui attribuent également à ce psaume 62 une place très très importante. Et dans tous les usages, jacobites, maronites, coptes, dans l'office de l'aurore arménien, dans l'ancien office gaulois, ce psaume 62 a une place prépondérante. Mais dans la plupart des usages, il est accompagné quand même du psaume 3. Dans notre orthros, à nous, dans la pratique de l'Église orthodoxe, il suit ce dernier, mais à la troisième place, c'est-à-dire après le psaume 37. Mais je pense qu'il y a une raison théologique. En effet, le psaume 3 et le psaume 37, qui commencent les psaumes, ces deux psaumes-là se rapportent au même thème, qui est le thème du combat spirituel. Je n'ai pas le temps de vous les lire, vous les relirez. Et donc, le psaume 62, quand il arrive en troisième position, il arrive pour marquer justement la victoire de la lumière spirituelle sur les ténèbres intérieures. Donc il y a une pédagogie, et la place du psaume 62 n'est pas du tout une place secondaire, elle est au contraire une place tout à fait importante et qui est préparée par les deux psaumes précédents. Donc il n'y a pas de contradiction, si vous voulez, entre l'usage byzantin actuel et les usages anciens qui mettait le psaume 62 à la première place. En fait, c'est l'usage byzantin souligne l'importance du psaume 62, qui est un psaume de lumière, qui est un psaume de foi, qui est un psaume de victoire. Vous voyez ? Donc, ça, c'est intéressant, c'est de voir que là, dans une comparaison liturgique comme ça, on s'aperçoit que s'il y a eu une évolution dans un certain corpus liturgique, en l'occurrence le corpus byzantin, c'est pour une raison aussi. Moi, je pense, c'est mon hypothèse, c'est que les choix liturgiques sont motivés par des raisons, surtout dans le contexte byzantin, autant que je le connaisse, les choix liturgiques sont motivés par des raisons esthétiques et pédagogiques. C'est pas pour rallonger l'exemple, ça c'est pas pour faire absolument six psaumes, mais c'est... Non, on a voulu souligner l'importance du combat spirituel, en vue justement du triomphe de la lumière. Alors, il y a aussi d'autres exemples de comparaison intéressants, par exemple celui du canon des neuf odes, qui est le noyau des matines byzantines. Mais ce qui est intéressant, voilà, je parle rapidement parce que j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti, c'est que oui, c'est un exemple intéressant parce qu'en fait, derrière je m'adresse à des gens qui en principe connaissent l'office. Vous savez très bien qu'actuellement dans l'office de matine, pendant l'office de matine célébré en carême, mais précisément en carême, tous les jours on chante une ode biblique différente. Dans ce site indiqué, à la fin des psautiers, c'est parfaitement indiqué. Donc, je vais vous le dire rapidement. Donc, le lundi, on chante, donc c'est la première ode qu'on chante donc au matin, c'est le cantique de Moïse, chantons pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire. Le mardi, on chante un autre cantique de Moïse pris dans le Deutéronome, ciel sois attentif, je parlerai, que la terre écoute ce que prononce ma bouche. Le mercredi, on chante une autre ode biblique, qui est la prière d'Anne à la mère de Samuel. Mon cœur s'est affermi dans le Seigneur, ma corne s'exaltera en mon Dieu. Le jeudi, on chante la prière d'Habacuc, le prophète. Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai été saisi de crainte. Le vendredi, donc on chante la cinquième ode. La nuit, mon esprit veille devant toi, ô Dieu. C'est un texte du prophète Isaïe. La sixième ode vient ensuite. Ces neuf odes qui sont réparties dans l'office des matines en semaine de carême. Voilà. Bon, or, ce qui est intéressant, c'est de savoir quand c'est l'origine de la présence de ces neuf odes dans les matines, c'est la vigile pascale. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que on trouve pendant le carême une caractéristique liturgique qui est pascale en fait. Donc c'est-à-dire que les odes bibliques sont introduites dans l'office des matines en carême pour y introduire au maximum déjà, progressivement, mais de façon intense, y introduire la dimension résurrectionnelle. Ça veut dire que nos offices de matine, de semaine en semaine, pendant le carême, sont les offices qui annoncent la résurrection, vous voyez. Mais ça se voit liturgiquement parlant, parce qu'on sait que ces odes bibliques viennent de la vigile pascale très très ancienne, très très ancienne, et que ça a été après ça réparti dans les différentes traditions liturgiques de manière un peu différente, mais on les retrouve partout. On retrouve ces odes bibliques de matin, on les retrouve dans toutes les traditions liturgiques, mais agencées d'une manière ou d'une autre. Et justement, Antoine Bauchtard considère que c'est un usage des plus anciens temps chrétiens universellement observés, cette lecture des odes bibliques. Et ça vient de la vigile pascale commune, en quelque sorte, des chrétiens. Et ça se retrouve encore maintenant. Oui. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on pourrait également... Donc on peut faire des comparaisons, après ça, aller dans tel ou tel rite et voir quelle est la place tenue par ces odes. Mais on va les retrouver. On va les retrouver, mais peut-être à une place différente. Par exemple, ça s'est resté, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il dit que dans certains usages, notamment sur l'Occident, la vigile pascale et même la simple vigile dominicale comprenaient 12 lectures, alors qu'il y avait des lectures, et avec les lectures, eh bien, on intégrait les hymnes bibliques. Par exemple, après la sixième lecture, prenait place le cantique de Moïse dans l'Exode, qui est au matin du lundi chez nous actuellement. Après la douzième lecture, le cantique des trois jeunes gens, qui est aujourd'hui à la septième et la huitième mode. Donc on retrouve ces hymnes bibliques partout, mais placés éventuellement à un endroit différent. Donc on voit bien le rapport entre la diversité et l'unité. Et l'unité ici, c'est l'usage des mêmes textes qui viennent de la Bible pascale, et la diversité, c'est leur place dans l'office qui n'est pas forcément la même. Il y aurait également notre auteur, Bramstein, il signale l'influence de saint Pacôme dans ce domaine-là, dans le domaine du nombre des psaumes, et il montre comment le Pacôme, qui est un père égyptien, a réussi à quand même avoir une influence sur le christianisme occidental, puisqu'on trouve des pratiques qui viennent de l'office pacomien, et on en trouve dans les offices occidentaux, par exemple en Espagne. Donc, c'est intéressant, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la circulation de la vie dans l'Église, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit, en fait, dans l'Église, et l'action du Saint-Esprit dans la vie liturgique de l'Église. D'ailleurs, la même étude pourrait être faite sur la place de l'Évangile dans l'office des matines ou dans différents offices. Il y a certaines églises qui ont encore une lecture de l'Évangile à vêpres. Mais nous, c'est pas du tout le cas. Dans l'Office byzantin, il n'y a jamais de lecture de l'Évangile à vêpres. Ce sera toujours à matine. Ah oui, il y a des églises où c'est à vêpres. Pourquoi pas, vous voyez? Et après ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que nous lisons l'Évangile aux matines avant le psaume 50 et avant le début du canon, et que chez les Grecs, depuis, dans le Typicon de la Grande Église, publié en 1897 à Athènes, on a dit que l'Évangile et le psaume 50 qui l'accompagne sont lus à la fin de l'ode, à la fin du canon. Oui. Bon, donc, on conclut, parce qu'on va s'arrêter là, donc on conclut en soulignant, comme il a déjà été fait, le caractère varié et foisonnant de la tradition liturgique. Rien d'uniforme ou de monotone en elle, et pourtant, elle est homogène, parce qu'elle a partout une origine commune ancienne que l'on peut retrouver. Ce qui fait principalement son homogénéité, d'ailleurs, c'est sa composition principalement biblique. C'est parce que la Bible est dans la liturgie, d'une manière ou d'une autre, que la liturgie de quelque pays que ce soit, de quelque église que ce soit, est homogène. Si on excepte pour les compositions patristiques comme les canons, enfin, statistiquement, les compositions patristiques sont quand même moins, tiennent une moins grande place. Sauf que la pratique actuelle fait qu'on ne lit presque pas les psaumes. Mais si on lisait tous les catismes prévus par l'ordo, vous verriez que finalement l'équilibre est très important, que notre office de matine, par exemple, est principalement un office biblique. Mais dans la pratique actuelle, il faut déplorer, je pense, le fait que les psaumes c'est toujours les victimes. Quand on veut abréger un office, c'est toujours les psaumes qu'on enlève. Mais c'est un petit peu dommage, si vous voulez. On peut peut-être abréger, je comprends qu'on ait besoin d'alléger les offices quelquefois parce qu'ils sont très longs. Paroissialement, c'est pas toujours possible de tout faire, bon, d'accord. Mais on peut alléger autrement, on peut aussi alléger en omettant certaines compositions patristiques de façon à conserver quand même l'équilibre biblique des offices. Donc c'est principalement ça qui fait l'unité, l'homogénéité, et qu'est-ce que j'avais mis d'autre avant de fermer? Oui, c'est ça, j'avais écrit ça. L'office de l'Église, quelle que soit l'Église locale où on le chante, c'est la Bible distribuée eucharistiquement au peuple de Dieu par les pasteurs, et principalement par son grand pasteur invisiblement présent. Ça, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, c'est, je dirais, la structure eucharistique de l'office chrétien. C'est-à-dire, l'office, quel qu'il soit, comme distribution eucharistique de la parole. C'est la parole qui se partage, qui se distribue, qui se donne en nourriture à ceux qui l'écoutent. Je ne parle pas ici du sacrement de l'Eucharistie, je parle de l'office lui-même, comme office de communion à la parole et de distribution eucharistique de la parole par elle-même. Voilà, donc merci pour ça, on s'arrête, on fait une petite pause avant d'aborder le deuxième cours, donc consacré au typicon, et on trouvera des remarques un peu analogues. Ah oui, c'est une intervention intéressante du Père Joël. Il dit que c'est dommage qu'on ne puisse pas insérer à la suite du canon de Saint Jean Chrysostome des immolations, suivant la fête, il y a des prières tenant compte du propre, comme on les a dans la liturgie selon Saint Germain de Paris. Oui, alors ça, c'est une remarque qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on compare l'usage byzantin avec un usage qui se trouve dans une autre tradition liturgique. Et c'est vrai qu'on a envie de faire des emprunts quelquefois. On dit, tiens, c'est dommage, on pourrait peut-être, pourquoi ne pas emprunter tel usage et l'enrichir? Enfin, je pense que c'est un bon instinct, en quelque sorte. Mais cela dit, c'est les emprunts qui se font de cette façon-là se font généralement avec la bénédiction de l'évêque. C'est-à-dire qu'il y a toujours une structure ecclésiale dans la liturgie. Je crois qu'il y a des emprunts, je peux vous citer des paroisses, par exemple, où on a introduit dans la vigile pascale le chant de l'Exultet, à sa bonne place, au moment de l'entrée de la présentation de la lumière. Le chant de l'Exultet, ça vient de l'usage gallo-romain, c'est tout à fait occidental. Mais c'est intégré, là, avec la bénédiction de l'évêque, évidemment, vous voyez. Je pense qu'il faut faire des propositions et en même temps faire très attention, parce que quand on emprunte un élément liturgique et qu'on l'introduit dans un autre corpus liturgique, il y a toujours le risque de que ça paraisse, que ce soit un petit peu artificiel ou que ça crée un déséquilibre. Il faut être sûr que ça s'intègre bien. Il faut faire comme attention à ce qu'on fait et que ça soit pas arbitraire et que ce soit validé quand même par l'épiscopat local. Ça, c'est très important, ça. Ne rien faire sans la bénédiction de l'évêque, en tout cas. Voilà, merci. Voilà, donc le cours numéro 2, c'est celui donc dans lequel je présente le type icône de notre Église, avec quelquefois donc des comparaisons avec d'autres usages, et je reste finalement dans une dynamique comparatiste, parce qu'elle est un peu inévitable. Ici, en Europe occidentale, nous avons le privilège d'appartenir de nous nourrir de la tradition liturgique roumaine, mais nous sommes confrontés par la vie réelle ici en France, par exemple, nous sommes confrontés à des usages différents de l'Église russe et de l'Église grecque, pour ne prendre que ces deux grandes familles orthodoxes. Donc, forcément, on doit accepter que si on est invité à célébrer, à servir, à officier dans une église grecque, par exemple, eh bien, il va falloir accepter les usages différents qui sont les leurs. Et à l'inverse, si quelqu'un vient chez nous, on va lui dire, écoute, nous, dans l'église roumaine, on fait de telle ou telle façon. Vous voyez, il peut y avoir aussi des petites différences. Donc ça rejoint, c'est pour ça que j'ai fait le cours de liturgie comparée en premier, parce que finalement les idées que j'exprime, on les retrouve ensuite. Alors, j'avais commenté un peu le tout début de la liturgie, donc avec la succession des antiennes, qui peut varier justement d'une église à l'autre, entre l'église russe et l'église roumaine, et puis il y a une différence. L'église russe, on dit toujours en entier les psaumes des anciennes, de la première antienne 1 et antienne 2, dans l'église romaine, on passe beaucoup plus rapidement à Fils unique et Verbe de Dieu, qui en tout cas reste dans toutes les liturgies la base. Et puis ensuite, on a la troisième antienne qui est la prière des béatitudes, et celle-ci, on la trouve dans toutes les liturgies, bien entendu. Alors, ce que je vous rappelle, c'est ce qu'indique le typicon, c'est que dans cette prière des béatitudes, on peut introduire des strophes qui sont liées à la fête. Et je crois qu'il faut encourager les paroisses et mes collègues, les prêtres, à le faire. C'est-à-dire, quelquefois, je me rends compte qu'on ne le fait pas, ou on chante des béatitudes, on ne se rend pas compte. Et alors, c'est très intéressant, c'est un enrichissement. Je crois que cette pratique, qui est donc attestée par le typicon, fait que la liturgie a une certaine variété, qu'elle n'est pas toujours monotone, pas toujours la même. Et c'est ce qu'on appelle le propre. Qu'est-ce que c'est que le propre liturgique? C'est ce qui est justement propre à la fête, propre au jour. Et ça, on doit le retrouver. Je dirais par exemple, il y a le propre de la semaine, mais il y a des strophes, j'ai vu dans le l'octoèque, il y a des strophes qui sont prévues pour les béatitudes en semaine. Alors ces strophes, on les prend là, ou on peut les prendre également dans le ménologe. Actuellement, on les trouve dans le triode, mais donc ça peut s'enrichir. Voilà, donc, quand la, je reprends le texte ici, quand la, le chœur, strana, c'est la chorale, voilà, commence à chanter les stichères qui correspondent à gloire au Père, de la troisième antienne, c'est-à-dire les béatitudes, le prêtre ouvre les portes royales, il s'incline devant les fidèles et procède à l'entrée, la petite entrée, vorodulmik en roumain, c'est-à-dire que la petite entrée, c'est-à-dire en quelque sorte l'entrée avec le Saint-Évangile. Alors ce que je fais remarquer ici, c'est que on attend relativement tard pour entrer, pour sortir et pour entrer. D'un point de vue liturgique, il faut faire très attention que ce qui est important dans la célébration, c'est la synchronisation. Donc il faut bien calculer, il faut que les prêtres calculent le moment où ils quittent l'autel pour entrer avec l'évangile, il faut qu'ils le calculent sur l'endroit où se trouvent les chantres au même moment, sur la vitesse du chant, sur le fait qu'il y a ou pas des strophes intercalées, et tout ça, ça se calcule. Et si on démarre trop tôt, si on quitte l'autel très tôt et qu'on entre très tôt, on se trouve devant les portes saintes un peu trop tôt, donc on attend, et ça fait une station quand même peut-être un petit peu longue. Encore que ça, c'est pas trop grave. Si on part trop tard, bah, ça va être l'inverse, on va être en train d'entrer alors que la chorale a fini de chanter, donc il va y avoir, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des silences. Bien entendu, c'est pas très grave. On peut entrer, l'entrée avec l'évangile, c'est suffisamment solennel en soi pour que ça puisse se faire dans le silence. C'est pas tellement gênant. Mais normalement, il y a une synchronisation. Alors, il y a également le fait dont on ne parle pas, je crois, ici, le typicon. C'est que, si vous voulez, si l'église n'est pas trop grande, si on calcule bien la gestion du temps, si on synchronise bien les actions, on peut porter l'évangile depuis l'autel jusqu'au fond de l'église et revenir par le centre. Ce qu'on peut faire également pour la grande entrée, on en reparlera peut-être, mais c'est évidemment très très beau. C'est-à-dire que l'évangile traverse le peuple à ce moment-là, va au fond de l'église, précédé par les portes cierges, le porte encensoir, enfin, tout un monde. Mais c'est un petit peu normal quand même qu'il y ait une telle escorte faite au Christ, parce qu'il y a le Christ qui entre. Et donc, à ce moment-là, il traverse, il fend la foule et il arrive devant les portes saintes au moment où les béatitudes se concluent, c'est-à-dire au moment où on dit la doxologie des béatitudes. Et maintenant, actuellement, dans nos églises, l'entrée se fait très rapidement, uniquement devant le peuple, on tourne tout de suite et on ne traverse pas le peuple. C'est un peu dommage, mais ça, moi personnellement je serais pour restaurer une vraie procession, donc allant jusqu'au fond de l'église et entrant par le milieu, je serais plutôt pour cette manière-là de faire, j'encouragerais ça, mais maintenant je suis assez sage pour savoir que ce n'est pas toujours possible suivant les dimensions de l'église. Une église qui est très grande, vous n'arrivez pas, si j'ai fait cette expérience-là, j'avais été invité, je crois, à la paroisse Saint-Nicolas à Bruxelles, dans la paroisse roumaine de Saint-Nicolas, c'est une église qui est immense. Donc la gestion du temps n'est pas la même du tout. Et je crois qu'effectivement, l'habitude d'entrer directement devant le peuple, ça vient des grandes églises, des églises cathédrales, où le temps doit être géré, si vous voulez. Maintenant, dans une église plus petite, je comprends comme notre église de Limours, par exemple, qui n'est pas très grande, ou peut-être même ici à la cathédrale, je ne me rends pas compte, mais dans des églises de taille réduite, on doit pouvoir faire quand même l'entrée avec l'évangile en allant jusqu'au fond de l'église et en rentrant par le milieu. Franchement, on peut se permettre de le faire, on a largement le temps de faire cela. Enfin, ici, notre typicon roumain n'en parle pas, en revanche, il dit quelque chose qui est assez important, d'une part que c'est le prêtre qui ouvre les portes saintes, appelées portes royales ici, et non pas quelqu'un d'autre, ça c'est important, c'est pas n'importe quoi. Moi, je le vois souvent, moi-même, je demande au diacre, aux acolytes de les ouvrir, mais c'est le prêtre qui doit ouvrir, parce que c'est lui qui, à ce moment-là, en les ouvrant, s'incline devant le peuple, et c'est bien dit, ça, ici, hein. Plekundose, sprekredinchosh. C'est-à-dire qu'il le prêtre s'incline devant le peuple avant de lui apporter avant que l'évangile n'entre dans son peuple. Le prêtre se fait en quelque sorte l'annonciateur, il se fait le précurseur, voilà, ou le prophète de l'évangile qui va venir, ce que je trouve très important. On peut faire ça. Bon, et après ça, donc, une fois qu'il a fait ce qu'on appelle à la fois l'entrée et la sortie, parce que en roumain, on parle de yeshirea, qui veut dire plutôt sortir qu'entrer. Mais en réalité, il s'agit de l'entrée. Ceci est expliqué par le père Alexandre Schmemann. Par Alexandre Schmemann, dans plusieurs de ses livres, a expliqué que un des symboles les plus importants de l'action liturgique, c'est justement le symbole de l'entrée. Le Christ entre. Il entre dans Jérusalem. Il entre auprès du Père après l'Ascension. Il arrive. Vous voyez, c'est ça. C'est une dimension qui est fondamentale dans la liturgie. Mais effectivement, pour entrer, il faut bien qu'il parte de quelque part. Donc il quitte le trône céleste, tout sans le quitter, et le quitte sans le quitter, comme on dit dans la liturgie. Mais il part de là, il s'élance en quelque sorte, le Verbe s'élance dans le monde pour l'instruire et pour le sauver. Et après ça, il retourne, il entre à nouveau dans le royaume en portant le monde dont il s'est fait l'hypostase par l'incarnation. Donc c'est un rite d'entrée, et ça explique l'architecture chrétienne. L'architecture chrétienne a posé à la jointure de la nef et du sanctuaire, depuis une époque très très ancienne et dans tous les pays du monde, donc là aussi il n'y a pas de distinction entre Orient et Occident, elle a posé un arc de triomphe. Avant que nous ayons ce qu'on appelle actuellement l'iconostase, c'est-à-dire une architecture qui porte les icônes des saints qui nous regardent, en fait, c'est très, 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 très important du point de vue théologique. Mais avant cela, il y avait une architecture en bois ou en pierre ou en métal, en argent, à Rome et à Ravenne. Cette architecture était en métal précieux. Et c'est pour ça qu'elle a disparu, parce que vous pensez bien que quand les Lombards et autres sympathiques touristes ont commencé à envahir l'Italie, ça n'a pas été simplement pour, pour manger des olives, par exemple, vous voyez, qui étaient abondantes en Italie déjà à l'époque, comme elles le sont aujourd'hui. Non, 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 ils ont eu le temps largement de s'intéresser à la matière dont étaient composés les arcs de triomphe, et cette matière était de l'argent, comme on doit malheureusement le savoir. Bon, donc c'est ce de chancel, si vous voulez, ont disparu. On peut pas les appeler des iconostases, parce qu'elles ne portaient pas du tout d'icônes. On n'a jamais porté d'icônes, sauf à l'époque après l'iconoclaste. Jamais, jamais, jamais. Et le reste de ça, par exemple, c'est à l'église Capnicaria d'Athènes, que vous pouvez visiter, qui est l'église dédiée aux trois saints docteurs. Eh bien, il y a encore là, justement, une construction en marbre blanc, très très beau, et qui supporte des rideaux rouges en velours rouge, très très beau, mais il n'y a pas d'icône dessus. Donc, et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'en fait, il s'agit bien de l'entrée. L'arc de triomphe dans l'Empire romain, c'était cet arc que franchissaient les généraux vainqueurs, quand ils revenaient après avoir été exterminés des peuples, couverts de sang, etc., des choses absolument horribles, et traînant derrière eux des esclaves enchaînés, et également traînant derrière eux quelques animaux sauvages dont ils avaient fait la capture. Ils entraient triomphalement, ce qu'on appelle le triomphe, et c'est appelé un arc de triomphe, ce que nous avons à Paris d'ailleurs. Donc l'arc de triomphe parisien, c'est tout à fait la réplique de l'arc de triomphe romain, et notre architecture liturgique d'église comporte justement cet arc de triomphe par lequel entre le Christ évangile ou le Christ dans le calice, le Christ aussi en l'icône, je dirais, de l'évêque, non pas en la personne de l'évêque, mais en l'icône de l'évêque. Vous savez que c'est quand on accueille l'évêque au début de la liturgie, les portes donc du sanctuaire sont ouvertes et l'évêque entre directement par le centre. Il n'y a que l'évêque qui fait ça. Un prêtre ne fait pas ça du tout, du tout, du tout. Un prêtre entre par le côté, il entre par le côté sud et il sort par le côté nord et il n'entre par le centre que s'il porte l'évangile ou la croix ou les saints dons. Donc cet exemple, il n'y entre que quand il porte le Christ, il n'y entre que comme porteur du Christ, comme véhicule, si je peux dire, du Christ. Il est en quelque sorte le char sur lequel est monté le triomphateur. Donc ce rite de la sortie, entrée, si vous voulez, est très, très, très important. Donc, il arrive ici, il y a une histoire en train de décrire la sortie avant. Donc, il a ouvert les portes, il a salué le peuple, ensuite il se retourne devant l'autel, il s'incline devant l'autel, appelé ici Sainte Table. Il faut voir que la terminologie roumaine est intéressante. C'est bien sûr que c'est la table du sacrifice, mais l'autel, c'est à la fois la table du sacrifice, c'est le trône du roi, et c'est le tombeau du ressuscité. Et donc ici, on l'appelle principalement. Alors il s'incline devant la Sainte Table. Yakumult evlavis tunta evangeli, il prend avec beaucoup de piété, de respect religieux, de piété, le Saint-Évangile, il place à sa place la croix. En fait, c'est intéressant, si vous voulez, le fait de mettre la croix sur l'antimension à la place de l'Évangile, c'est pas un usage arbitraire, c'est prescrit par le typicon. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que quelquefois, on dit, oh ben, tel prêtre fait ça, c'est une habitude du village, mais pas du tout, c'est prescrit. Donc, et pourquoi, c'est très intéressant, ça a un sens aussi. Pourquoi est-ce que nous mettons la croix à la place de l'Évangile? C'est pour marquer l'équivalence. La croix est l'Évangile. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, le dimanche de la Sainte Croix. C'était il y a 15 jours, je crois. Eh bien, on a préparé la procession avec la croix de la façon suivante. On a mis à la place de l'Évangile une grande croix sur un plateau orné avec des fleurs, etc. Vous avez dû préparer ça dans vos paroisses respectives. Et adossé au fond de l'autel, on a mis l'Évangile. Donc, dans l'axe, si vous voulez, dans l'axe de l'autel, on voyait la croix posée sur l'autel et au-delà d'elle, l'Évangile. Donc, c'était fait pour signifier l'équivalence de la croix et de l'Évangile. Et après ça, donc, on a sorti l'Évangile a dû être lu à Matine pour la résurrection. On a posé l'Évangile sur un ambon au milieu du peuple et ensuite, à la fin de la Matine, on est sorti avec la croix. Et on a posé la croix à côté de l'Évangile. Et les fidèles sont venus vénérer la croix et l'Évangile et recevoir l'onction ou la bénédiction du prêtre. C'est-à-dire qu'on a souligné dans le rite l'équivalence entre la croix et l'Évangile et le sens théologique de la croix et le sens sacrificiel de l'Évangile. C'est très intéressant. Donc, il met à sa place la Sainte Croix. Et après ça, tenant l'Évangile élevé, à la hauteur de son front, ça c'est important, vous savez, les gestes ont leur signification. Pourquoi à la hauteur de son front? C'est que on n'a pas à voir le visage du prêtre dans la procession, ça n'intéresse personne. C'est comme quand on porte des icônes en procession, elles doivent être à la hauteur de notre front. Le visage qui est sur l'icône doit remplacer le visage de celui qui la porte. Ça, c'est vraiment élémentaire. Et pour l'Évangile, c'est la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est l'Évangile. À la hauteur de son front, l'Évangile, c'est le visage du Christ même, c'est la face du Christ. Et il y a largement la possibilité pour le prêtre d'avoir les yeux en bas pour voir où il marche, c'est pas grave, hein. Et tout ce qu'on porte dans l'église, on va le porter à hauteur du visage. On dira la même chose, je pense, plus tard, quand on va parler de l'entrée, de la grande entrée avec les saints dons, il doit être porté très très haut, et ne pas être porté à la hauteur de la gorge ou de la poitrine par le prêtre, d'être porté à la hauteur du front. Premièrement, pour être vu par le peuple, et d'autre part, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Ce n'est pas le prêtre qui nous intéresse dans la liturgie, c'est le Christ. Bon. Voilà, donc, faisant cela, il sort... alors pedupes fantamas, c'est-à-dire qu'il fait le tour, ça c'est très important ça, il fait le tour, et, comment dire, il contourne la Sainte Table ou l'autel par la droite, bien sûr, pour aller sortir avec l'Évangile. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce contournement? Ça veut dire qu'il y a une équivalence aussi entre l'Évangile et l'autel. Oui, une équivalence, pardon, pas une équivalence, mais une affinité. Une affinité. Cet évangile est posé sur l'autel comme le Christ trône sur son trône. Et il est posé sur l'évangile comme le Christ repose dans le tombeau pour la résurrection. et l'évangile est posé sur cette table comme le Christ est lui-même offert en nourriture dans le banquet eucharistique. Mais donc la table est centrale, elle a une valeur extrêmement importante, ça se voit au moment des encensements. Vous savez que les encensements, très souvent, le prêtre, le diacre ou l'évêque encensent trois fois chaque côté de la table. Alors bien sûr qu'il encense l'évangile qui est sur la table, incontestablement, mais il encense la table qui en elle-même exprime un mystère très grand. Voilà, donc il fait le tour et il sort par la porte nord, alors que marche devant lui un porteur de lumière. Et il précise « Kouluminare Aprensev », évidemment il faut peut-être le souligner, au cas où les gens n'y penseraient pas, il porte des flambeaux, mais allumés, quand même. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi on le signifie, bon, que la lumière doit être allumée, d'accord. Ou bien, oui, il peut porter également donc des... soit une lumière à la main, soit un flambeau, bah, peu importe. Ce qui est important, c'est la lumière. Pourquoi ? Parce que le Christ est lumière. Il y a équivalence aussi entre la lumière et l'évangile, c'est clair. Et d'autre part, parce que cette sortie et cette entrée du Christ, elle est absolument solennelle. S'il y a un porte-lumière, c'est bien, mais s'il y en a 10, c'est mieux. C'est très très important. Et on doit signaler qu'à ce moment-là, on ne porte pas la croix. C'est une erreur que j'ai vue quelquefois dans des églises, au moment de la sortie avec l'évangile, on faisait une belle procession, les enfants tenaient chacun quelque chose, et quelqu'un portait la croix. Et bien en fait, non. Non, la croix, elle est portée au moment de la grande entrée, parce qu'elle annonce le sacrifice. Donc ici, l'évangile est précédé, l'évangile est précédé par la lumière. Donc, quand ils arrivent au milieu de l'église, le porteur de lumière se tourne. Alors, elle se tourne et il vient se placer à la droite, en face de l'icône royale du Sauveur. Donc, parce que dans la procession, ça c'est fait de manière précise. Donc, le porte-lumière, le photophore, je ne sais pas comment l'appeler, le porte-lumière, ben, il précède l'évangile, mais après ça, il s'écarte. Et il s'écarte sur la droite, mais ça aussi, ça a un sens. Il se met pas n'importe où, il se met sur la droite, c'est du côté du Christ. C'est-à-dire que par la lumière elle-même, il signifie l'équivalence entre le Christ évangile et le Christ icône. Vous voyez que ça a un sens, vous voyez comme c'est intéressant. Et à ce moment-là, le prêtre reste au milieu du Naos, enfin de la nef, voilà, reste au milieu de la nef, tourné vers l'Orient, c'est-à-dire vers le fond de l'autel, d'accord, et il tient l'évangile sur sa poitrine du côté gauche. Il incline légèrement la tête et dit comment dire, en secret, dans la prière de l'entrée, donc Seigneur notre Dieu, donc fait que nous entrions avec les puissances angéliques. Pardon, il y a une prière qui est très belle, vous relire si vous voulez, qui est dans laquelle l'entrée, c'est assez important, l'entrée des ministres accompagnant l'évangile est associée, disons, à l'entrée des anges, au mouvement des anges. Et donc ça souligne la dimension angélique de la liturgie. C'est très important aussi ça. Ensuite, il relève la tête. Donc, vous voyez comme les gestes sont précisés. Le prêtre incline la tête pour dire cette prière de l'entrée. Ensuite, il relève la tête. Il fait le signe de bénédiction vers l'Orient. Il bénit l'Orient. Il bénit l'entrée. Il bénit le trône sur lequel va reposer le Christ, il bénit l'architecture de l'église aussi, parce que c'est une bénédiction très, très englobante, il bénit la lumière qui est sur l'autel et qui attend le Christ, et il dit, béni est l'entrée de tes saints, Seigneur, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Bini commentat, c'est intrare sfinci l'orteil, Mais de Tessa, alors, de qui s'agit-il? Il s'agit, c'est une prière un peu mystérieuse quand même. Moi, ça me fait toujours un peu réfléchir. J'ai pas pris le texte. Pourquoi est-ce qu'on dit, qui sont les saints? Mais les saints sont tous ceux qui entourent le saint. C'est-à-dire que le Christ est le seul saint en tant que Dieu, mais il est entouré des saints anges, il est entouré des personnes aussi qui ont été dans l'Église consacrées à son service, qui sont les évêques, les prêtres et les diacres. Et donc ici, ça signifie quand même donc les ceux qui sont au service de l'Évangile, ceux qui sont consacrés à cela. Si vous avez assisté à des ordinations d'évêques ou de prêtres, et de diacres également, je crois que c'est pas très différent, vous voyez très bien que ces hommes sont consacrés au service de l'autel, consacrés au service de la parole, consacrés à l'offrande. Donc ici, le terme de, quand on dit « béni soit l'entrée des saints », ça désigne le Christ, le seul saint, et ceux qui sont sanctifiés, consacrés pour le servir. Mais je pense que ça veut dire aussi une autre chose, ça c'est assez important, c'est que à ce moment-là, le peuple lui-même entre. Il entre par le ministère de ses prêtres. Les prêtres n'entrent pas dans le sanctuaire pour eux-mêmes. Ils entrent au nom de tout le peuple saint de Dieu. Et c'est pour ça que l'expression « béni soit l'entrée de tes saints », c'est spécifique de tes saints, oui c'est ça, c'est intéressant, de tes saints, c'est-à-dire que ça veut dire « béni soit l'entrée de tous ceux qui te sont consacrés ». Les évêques, les prêtres, les diacres, mais tout le peuple aussi qui est consacré à Dieu par le Saint-Baptême. Alors, il n'entre pas à ce moment-là précis, mais il entre par le ministère de ses prêtres. C'est important, ça veut dire que je rappelle maintenant l'iconostase, mais qui est donc cette arc de triomphe, ne sépare pas. On dit que quoi, oui, l'iconostase, c'est ce qui sépare la nef du sanctuaire. Moi, je m'insurge contre cette expression-là. Ça ne sépare pas, ça unit. L'arc de triomphe, il unit la nef et le sanctuaire. Et le rôle des prêtres, justement, c'est de signifier cette union. Et ils le font tout le temps, ils n'arrêtent pas de se tourner, de bénir, de rentrer, de sortir, justement pour souligner le lien. Et le diacre en particulier ne cesse d'entrer et de sortir. Et chaque fois qu'il fait ça, il souligne le lien profond qu'il y a entre l'autel et la nef, et le lien profond qu'il y a entre le prêtre et le peuple. C'est un des rôles importants du diaconat. C'est pour ça que la célébration de la divine liturgie sans le ministère diaconal est quand même très appauvrie. Il manque un élément essentiel. Maintenant, quand on parle avec les évêques, ils sont toujours prêts à ordonner les diacres prêtres, parce qu'ils ont besoin de prêtres, que je comprends très bien. Mais moi, souvent, je viens de le dire à l'instant, donc à un évêque, qu'on a besoin de diacres. On a besoin de diacres parce qu'on a besoin de ce ministère qui assure le lien entre l'autel et le neuf. Et il y a des parties qui sont dans l'éthologie, des parties qui sont diaconales, et c'est dommage qu'elles soient dites par des prêtres. Ils sont diaconales, ils ne sont pas presbytérales. Je n'y peux rien. C'est comme si les diacres disaient les prières du prêtre. On leur dirait, ben non, c'est pas diaconal, c'est presbytéral. Moi, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on pourrait améliorer. On devrait dans les églises, autant qu'on peut, ordonner des diacres, quitte à ce qu'ils restent diacres toute leur vie. Ça n'a aucune importance. On n'est pas diacre pour être prêtre, on est diacre pour être diacre. Et donc, de façon à avoir vraiment une célébration liturgique consistante. Pas bon. Voilà, donc il dit, béni est l'entrée des saints, ce que je viens de dire, et il fait deux inclinaisons, quand on dit inclination, ça veut dire il s'incline par deux fois, ce ne sont pas des grandes méthanies, ce ne sont même pas des moyennes méthanies, mais il embrasse, saluta sventa evangelie, il embrasse l'Évangile et il s'incline encore une fois, mais il s'incline sur l'Évangile qu'il porte de la main gauche. Vous voyez, le geste est le suivant, le prêtre tient sur son épaule gauche l'Évangile, le Saint-Évangile, de la main droite, s'étant incliné légèrement, il bénit l'Orient et... Oui, il embrasse l'évangile toujours en le tenant tel qu'il fait, et il s'incline devant l'évangile qui vient. Oui, il faut qu'il le fasse, ça, si vous voulez, le prêtre, parce qu'il le fait devant le peuple, c'est un enseignement, il y a une pédagogie. Quand il s'incline devant l'évangile, qu'il l'embrasse, et bien, il le fait ça devant tout le peuple, c'est-à-dire qu'il manifeste le caractère précieux de l'évangile, bien sûr, vous voyez. Ensuite, portant de nouveau l'évangile avec les deux mains, donc les gestes sont très très précis, le typicon est très exigeant, puisqu'on nous dit quand est-ce que le prêtre le porte d'une main, quand est-ce qu'il le porte des deux mains, et ici il le porte des deux mains, toujours à la hauteur de son front, il entre dans l'autel, entre les portes royales. Alors, ici, l'expression porte royale, vous savez qu'elle est discutée. En fait, les portes royales, ça devrait être plutôt les portes de l'église. C'est les portes qui unissent le narthex et la nef. Elles sont les portes royales parce que par ces portes-là entre le peuple royal. Et les portes donc, qui unissent la nef et le sanctuaire, on devrait les appeler plutôt les portes saintes, puisque ce sont justement les portes par lesquelles entrent ceux qui sont sacré. Voilà, mais enfin, donc, dans l'usage, ici c'est le cas en roumain aussi, on dit Svechnike, Sanichele Impeletecht, c'est-à-dire les portes royales. Mais voilà, j'attire l'attention sur le fait que c'est. Même dans l'usage français, on emploie l'expression porte royale parce qu'ils sont en fait les portes saintes. Voilà, bon. Donc, il arrive en face des saintes portes, il doit arriver en face de ces portes au moment où la troisième entière se termine, c'est la fin des béatitudes. Hein. C'est-à-dire, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, la synchronisation est extrêmement importante. Alors, c'est soit la fin des béatitudes, soit la fin des tropères propres. Si, par exemple, pour la fête de la croix, la troisième entière, ce ne sont pas les béatitudes, c'est le tropère de la croix avec des versets. Donc, mais en tout cas, ça doit se terminer, ça se termine à la doxologie, et quand le cœur a chanté « Gloire au Père », on sait que c'est le moment de faire la suite. Et qu'est-ce que c'est que la suite? Eh bien, le prêtre élève l'évangile et dit à haute voix « Inceleptione drep », c'est-à-dire « Sagesse, tenons-nous bien ». Et alors ici, on dit, ensuite il entre dans le Saint-Autel par les portes saintes et pose le Saint-Évangile à sa place sur l'antimension. C'est vrai, mais en réalité il y a un usage qui est assez beau et qu'on essaie de suivre dans la plupart des églises, vous l'avez vu, c'est le fait de se retourner. C'est un usage que j'ai vu beaucoup pratiquer dans l'église russe. Celui qui tient l'évangile, si c'est le diacre, il se retourne, mais ce n'est pas dans le typicon que j'ai sous les yeux, hein, mais je le complète. Si c'est le diacre, il se retourne donc face au prêtre ou face à l'évêque et il présente l'évangile très très haut pendant que le prêtre et le diacre aussi d'ailleurs chantent « Venez, adorons et prosternons-nous ». C'est ça, ça manque un peu dans le typicon ici. Ils disent, vous voyez par exemple, ils disent oui, ils disent, bon, voilà, les chantres chantent venez, venez. Ben, là, j'avoue, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit. Les chantres chantent avec les fidèles, venez, prosternons-nous. Etc. Je pense que c'est inexact. Je me permets, donc, avec la responsabilité qui m'incombe, je me permets d'apporter un peu une critique ici. Je pense qu'il est plus juste que ce qu'on appelle l'invitatoire, c'est-à-dire « Venez, adorons et prosternons-nous », ça serait chanté par les prêtres, ou le prêtre, et strictement, et pas par la chorale, et pas par le peuple, parce que c'est un invitatoire. Et donc, et à cet invitatoire va répondre le chant du cœur qui dit, par exemple, « Sauve-nous, ô Fils de Dieu, mentuiejte nepenov, fiul lui Dumnezeu, sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts, par exemple. Ça, c'est chanté par le cœur. Ça, je suis bien d'accord. chanté par le cœur, c'est même chanté par le peuple, c'est très très bien ça. Mais l'invitatoire lui-même, à mon avis, doit être chanté que par le prêtre, parce que c'est le prêtre et le diacre, hein, mais ceux qui justement forment la tête de la procession, ils appellent le peuple. Et donc ici, il y a une réponse, c'est très beau, c'est vraiment le système responsorial qui fonctionne à cet endroit-là. Le prêtre entonne l'invitatoire et le cœur et le peuple répondent en disant « Sauve-nous, fils de Dieu ». D'accord ? Et ça se fait justement avant d'entrer, tant que l'évangile est présenté en hauteur. Alors si c'est le diacre, comme je viens de le dire, il tient l'évangile à hauteur de son front face au prêtre et face au peuple, d'ailleurs, hein, pendant qu'on va chanter « Venez, adorons », et si c'est le prêtre lui-même qui célèbre parce qu'il n'y a pas de diacre, à ce moment-là, il fait le même geste, il élève l'évangile, mais il bénit en faisant la croix. Donc quand c'est le diacre, il ne fait pas le signe de la croix, le diacre ne bénit pas, mais quand c'est le prêtre, il bénit, sauf si un évêque qui est là, à ce moment-là, il ne bénit pas, parce que le prêtre ne bénit pas en présence de l'évêque. Bon. Mais donc, effectivement, ça, imaginez que c'est une célébration pontificale sans diacre, ça peut arriver quand même assez souvent, donc le premier prêtre porteur de l'évangile, alors je ne vous parle pas de la célébration pontificale, alors, bref, il a pris l'évangile sur l'autel, il est sorti par la porte nord, il a contourné l'évêque, et il lui a présenté l'évangile à vénérer, ensuite avec la bénédiction de l'évêque, il se présente devant les portes saintes, et là il dit « Sagesse, tenons-nous bien », il se retourne et il porte ostensiblement l'évangile, mais il ne bénit pas, puisque l'évêque est là. Voilà. Bon, et après ça, en lieu, donc on entre, le prêtre entre, suivi, précédé de l'évangile, si c'est le diacre, donc bien sûr, l'évangile est porté par le diacre, mais si le type icône que j'ai sous les yeux ne fait pas tellement allusion au service diaconal, ça peut être dommage, s'il est seul qui n'a pas de diacre, c'est lui qui porte l'évangile, il continue, et il pose l'évangile sur l'antimension qui est sur l'autel. Si c'est le diacre qui est là, il entre, mais il ne pose pas le diacre ne pose rien sur l'autel. Il le tient, il attend que le prêtre soit entré, et quand le prêtre est entré, il lui donne l'évangile, et c'est le prêtre qui pose l'évangile sur l'autel. Ça, c'est une règle aussi. Personne ne pose rien sur l'autel, ni diacre, ni sous-diacre, ni ce que vous voulez, ne pose rien sur l'autel. C'est le prêtre qui le fait, ou alors à la rigueur, par exemple, c'est le cas quand on enlève l'étoile, quand le diacre enlève l'étoile qui est au-dessus des saints dons, dans une partie postérieure de la liturgie, au moment du Sanctus. Effectivement, c'est le diacre qui pose l'étoile, il le pose sur l'autel, c'est un rare cas, mais il fait embrasser cette étoile au prêtre, c'est-à-dire qu'il ne pose cette étoile sur l'autel qu'avec la bénédiction du prêtre. En fait, si vous voulez, cette référence à celui qui préside pendant toute la liturgie, c'est pas pour, c'est pas du cléricalisme, c'est pas du pouvoir des prêtres, je sais pas quoi, parce que j'entends les critiques des gens qui se trouvent en état démocratique et donc qui supportent aucune dimension hiérarchique. C'est pas ça. C'est que le rôle du prêtre en tant que président de la célébration, c'est un rôle de coordination. Donc, un diacre ne sort de l'autel pour aller dire une litanie qu'avec la bénédiction du prêtre. Et quand il revient dans l'autel ayant fait la litanie, par exemple, il demande à la fois encore la bénédiction du prêtre parce qu'il vient d'accomplir son service. Donc ça c'est une règle dans la liturgie, ça, que rien ne se fait dans l'église et dans le sanctuaire en particulier sans la bénédiction de celui qui préside. Si c'est l'évêque, c'est l'évêque. Si c'est un prêtre, c'est le prêtre. Mais celui qui préside est responsable de tout. Voilà, et alors donc après ça, ont lieu ce qu'on appelle les tropères, alors je n'entrerai pas dans le détail, mais ça c'est une question, ça se relève de l'ordo, donc il y a les tropères qui sont prescrits, tout le monde sait ça, si vous voulez, mais je le rappelle, l'ordre des tropères qui sont chantés à l'entrée, là, donc une fois qu'on a chanté « Venez, adorons », après l'invitatoire, l'ordre des tropères, il est prescrit de manière rigoureuse. Le premier tropère est toujours lié au jour où on célèbre, c'est-à-dire un tropère de la résurrection le dimanche, un tropère des apôtres si c'est un jeudi, un tropère de la croix si c'est le vendredi, je ne sais pas, vous voyez. Alors, chaque jour a son tropère correspondant. Et après ce tropère, suivant le jour où on se trouve, il y a généralement les tropères des saints patrons de l'Église, ce qui viennent après, et après ça, on termine par ce qu'on appelle un théotokion, c'est-à-dire un tropère adressé à la Mère de Dieu. Ça, c'est la forme générale. Maintenant, si j'ai une fête particulière, quelquefois, les tropères de la paroisse ou de la cathédrale ne sont pas chantés, ils sont remplacés par les tropaires de la fête qu'on célèbre. C'est le cas à Pâques, par exemple. À Pâques, le tropaire qu'on chante, c'est uniquement Christ est ressuscité. On chante trois fois, après ça, il y a la doxologie, et après ça, il y a un condacion, c'est bon. Donc, l'ordre des tropaires peut varier suivant la qualité, si je peux dire, l'identité de la fête qu'on célèbre, mais il est toujours prescrit, il n'est jamais arbitraire. Et ça, je tiens à le dire, parce que les paroisses, si vous voulez, qui introduisent tel ou tel tropaire parce que ça fait plaisir à quelqu'un, perdent leur temps et de toute façon doivent être prises avec gentillesse, amour fraternel et douceur. Voilà. Mais ça ne se fait pas trop. J'ai remarqué une fois ou deux qu'une paroisse où je me trouvais ne suivait absolument pas l'ordre qui était prescrit. Mais c'était vraiment très rare. C'est très rare. Dans l'ensemble, il y a une certaine conscience, disons, paroissiale qui fait qu'on célèbre le typicon commun parce qu'on est dans l'unité du diocèse où on se trouve. Oui. Voilà, donc, les tropaires et les condacia prévus. Note 60. Voilà, donc il y a une note 60 qui dit que il y a une édition, il y a un livre. Les dernières éditions de l'Octoèque à Bucarest, donc prescrites, quels sont les trois pères qui doivent être chantés? Ceci est prescrit, il n'y a pas à inventer. Hein. Bon, alors après ça, ici, c'est assez intéressant. Pendant le chant des trois pères, le prêtre ou l'évêque, enfin celui qui préside, lit une très belle prière, qui est une prière qui est dite avant le chant du Trisagion. Et cette prière, quelquefois, on l'a dit à haute voix. Monseigneur Joseph, quand il a un petit peu de temps, dit cette prière à haute voix parce qu'elle est très belle. C'est vraiment une prière qui mérite d'être entendue par tous les fidèles, ou plutôt que les fidèles méritent d'entendre, que tous les fidèles méritent d'entendre, parce que les fidèles, dans leur sainteté et leur responsabilité liturgique et ecclésiale, sont dignes d'entendre toutes les prières de l'Église. C'est pas une concession aux fidèles que de leur lire les prières à haute voix. C'est ce qui leur revient. Donc, ça, il faut le rappeler aussi de temps en temps, parce que, là aussi, quelquefois, dans certaines paroisses, on a l'impression que lire à haute voix les prières, c'est de la démagogie pour faire plaisir aux fidèles. Pas du tout. Pas du tout. Les fidèles sont compétents liturgiquement, et donc, les prières sont dites, pour eux, de leur part, et ils doivent entendre l'offrande qui est faite de leur part à Dieu. Voilà, bon. Et donc, une fois cette prière terminée, soit elle est à voix basse pendant les trois pères, soit elle est dite après les trois pères, si celui qui préside veut qu'elle soit dite à haute voix. Donc, il y a une conclusion, qui est très importante, qui est la conclusion qui est fonctionnelle dans la de la prière, car tu es saint en notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Voilà. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que normalement, on a à ce moment-là, ce qu'on appelle le Trisagion. Mais on ne va pas y arriver tout de suite. Dans les jours de fête et les jours de la fête paroissiale, la fête patronale de l'église ou du monastère, et puis également dans les fêtes des saints qui comportent le polyhélios, c'est-à-dire les fêtes très solennelles, on va dire, bon. Et si le prêtre le veut, on chante « Seigneur, sauve ceux qui confessent la vraie foi. Doamne, muntuyesh te peche bine ecclesin church. » C'est-à-dire que c'est très important, ça, du point de vue dogmatique et du point de vue ecclésial. Donc, prie Dieu de bénir tout particulièrement ceux qui confessent la vraie foi, c'est-à-dire ceux qui sont présents dans l'Église. Ceux qui sont présents dans l'Église sont des personnes qui sont réunies par la foi commune et pas n'importe quelle foi, par la foi des conciles, des sept conciles œcuméniques, qu'on appelle la foi orthodoxe, c'est-à-dire la foi attestée par l'ensemble de l'Église dans sa tradition patristique. Donc, ceci peut être fait. En français, on n'arrive pas tellement. Je n'ai pas vu faire ça. Vous avez entendu fait, mais de manière un petit peu lourdaude, on va dire, un peu pataude. Et donc, la vraie traduction, ce serait oui, Seigneur, sauve. Non, pas sauve. Mintouille. Seigneur, sauve ceux qui confessent la vraie foi. C'est sauve ceux qui confessent la vraie foi, sauve les confesseurs de la vraie foi. Mais vous savez, les confesseurs de la vraie foi sont les martyrs en particulier. Donc ça va très très loin. Je pense que je vois sous les yeux une image de Père Arsène
Boca.
Boca. Oui. Si je me trompe, oui. Les confessions de la foi, c'est des gens qui ont fait de la prison, c'est des gens qui ont été battus, c'est des gens qui ont été opprimés, humiliés. C'est pas rien, ce sont des martyrs, non? Donc, Seigneur, alors, pendant qu'ils chantent ça, c'est repris, il y a toute une forme. C'est dit une fois par le prêtre, le diacre, ensuite c'est repris par les chantres, et puis c'est repris, parce que c'est une forme, en fait, c'est une forme antiphonée, c'est une forme de réponse, c'est un répond, en fait. C'est un répond un peu comme le prokiménon qu'on va entendre tout à l'heure avant l'épître. C'est la même forme. C'est intéressant, parce que ça fait partie des formes responsoriales de la liturgie. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, que quand le prêtre dit « Venez, adorons », et que les fidèles reprennent « Sauve-nous, au Fils de Dieu », c'est une forme responsoriale typique. Mais là, c'est pareil, « Seigneur, sauve ceux qui confessent la vraie foi », et bien ça va être chanté de façon responsoriale. J'en profite quand même pour rappeler la structure responsoriale et antiphonée de la liturgie chrétienne. C'est une des bases de la liturgie. On en a beaucoup parlé, je crois, dans les cours qui étaient, en particulier les cours dans lesquels nous sommes référés à l'enseignement de Maxime Kowalewski. Mais ce n'est pas une invention de Maxime Kowalewski, c'est une observation, c'est une constatation. Voilà. Bon. Et donc là, le dernier verset de ce répond, c'est « Et écoute-nous, chineaos, penoi ». Donc, « Sauve ceux qui confessent la vraie foi », ça s'est repris. Après ça, « Et sauve-nous ». C'est repris, et après ça, il y a la fin de la doxologie, et on avait commencé par « Car tu es saint, notre Dieu », et ça se termine par la doxologie, et dans les siècles des siècles. Et tout est dit, à ce moment-là, face à la sainte table. Alors, ça c'est, donc on arrive maintenant à un moment très très important de la Sainte Liturgie qui a été préparé par la prière dont on parlait, qui est ce qu'on appelle le Trisagion. Alors, cette prière de Trisagion, il faut savoir qu'elle est absolument fondamentale. Je ne peux pas en faire l'analyse ici, parce que c'est pas exactement le sujet, mais tout de même. La prière de Trisagion, on la trouve tout le temps dans la prière de l'Église. Vous savez très bien qu'elle est intégrée dans les prières initiales de n'importe quel office et dans les prières finales de n'importe quel office. Même en carême actuellement, la fin de l'office de matine, eh bien, comporte le Trisagion avant la prière de saint Éphrem le Syrien. Donc, c'est-à-dire la prière de saint Dieu, saint Fort, saint Immortel, c'est une prière presque incontournable. Incontournable. Et elle est une prière qui est magnifique parce qu'elle est à la fois une prière de louange et une prière de supplication. Sa première partie est évidemment une confession de la foi, une doxologie. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, c'est une glorification de la Trinité, évidemment. Et sa deuxième partie, Milouyeste Nepenoi, ou Leison Emas, ou Aie pitié de nous, est une partie de supplication. Donc on a typiquement, là justement, une prière qui comporte les deux prière fondamentale de l'Église, c'est-à-dire la prière de louange et la prière de supplication. Et comme assez souvent, dans cet ordre-là, c'est-à-dire la prière de louange précède et la prière de supplication suit. C'est plutôt dans cet ordre-là. On commence par bénir Dieu, par le louer, par le glorifier, et on lui demande quelque chose après, ensuite. Bon, il y a peut-être des exceptions à ce que je dis là, mais ça me semble que c'est quand même majoritairement le cas. Alors, il faut savoir aussi que, pendant que le cœur chante ceci, le prêtre élève les mains, mais de manière visible, parce que les portes sont ouvertes à ce moment-là, elles ne sont pas fermées, donc on voit l'autel, il y a quelque chose qui est significatif dans le gestuel, il lève les mains et il dit silencieusement la même prière. Pendant que le cœur chante, ça, le prêtre le dit, d'accord ? Voilà, et dans cette prière de Saint Dieu, Saint Fort, c'est répété. Il y a un moment avant la dernière reprise où on dit, le diacre ou le prêtre annonce avec puissance, avec force, puternique, c'est-à-dire qu'on demande à l'assistance et au cœur de reprendre cette prière du Trisagion d'une manière plus forte, plus convaincue. Vous voyez, c'est très beau ça. Ça veut dire qu'il y a une montée, en quelque sorte, dans le champ liturgique, il y a une croissance. Et là, le peuple, vraiment, le peuple doit participer. C'est tout à fait dommage que ce serait tout à fait dommage, ou c'est tout à fait dommage, si le Tristagion n'est chanté que par le chœur, sous prétexte que c'est difficile à chanter, ou qu'il a un beau chant à faire ce jour-là. Au moins la dernière fois, au moins après Pouternik, Dynamis, avec force, au moins après ça, que tout le peuple chante, tout le peuple doit pouvoir dire chanter Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, et pitié de nous, quand même. Qui veut dire nous ici? C'est nous, quoi, c'est uniquement les chantres, mais non, c'est le nous communautaire, c'est le nous ecclésial. Et de toute façon, comme je l'ai rappelé dans un autre cours, le monopole de la chorale, c'est quelque chose de tout à fait récent, de tout à fait décadent aussi, et qui ne fait pas de bien à la liturgie, qui déforme la liturgie. Les chantres sont là, ne sont là que pour aider le peuple à chanter. Le but des chantres est de guider, de provoquer, de soutenir, d'instruire le chant du peuple. Mais le but, c'est que le peuple chante. Bien sûr, le peuple ne chante pas n'importe quoi, il chante justement grâce à l'assistance pédagogique des chantres. Voilà, donc ça c'était... Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, je vous le rappelle, mais il y a peut-être des gens qui m'envoient des messages pour me le rappeler. Vous vous rappelez très bien, vous savez, on le rappelle, que quand c'est Pâques, quand c'est Noël, quand c'est la Théophanie, à la place de Tristagion, on chante « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ». Pourquoi ? Parce que c'est la liturgie pascale, comme vous le savez certainement, est une liturgie baptismale. À Pâques, les catéchumènes sont immergés après 40 jours de préparation, 40 jours de catéchuménat. Et donc, c'est la liturgie pascale comporte ce chant « Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » avec le triple Alléluia. Et après ça, par imitation, en quelque sorte, on retrouve la même forme à Noël, encore que la Noël ne soit pas une fête particulièrement baptismale, mais beaucoup d'éléments de la fête de Noël, ce n'est pas le sujet maintenant, mais j'en parle quand même, beaucoup d'éléments de la fête de Noël sont calqués sur la fête de Pâques. La fête de Pâques est tellement importante qu'elle sert de type et de norme à d'autres fêtes. Mais ce n'est pas tout à fait exact dans la mesure où la fête de Noël n'est pas spécialement une fête baptismale. Mais vous allez me rétorquer que si, puisqu'il y a un carême de 40 jours qui précède. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments du cycle de Noël qui sont calqués sur le cycle pascal. Un carême de 40 jours, par exemple, et effectivement ce chant. Alors, de toute façon, c'est l'usage actuel, c'est très bien. Ce n'est pas du tout une critique de ma part, mais c'est pour indiquer que c'est tout de même surtout dans la vigile pascale et la liturgie pascale que ceci a sa place. Maintenant, on le trouve également dans la liturgie de la théophanie. Quand on célèbre le baptême du Christ, eh bien, on chante également cela. Alors, je regarde, hier dans la note, 961, pour la nativité... Ah oui, je vais vous dire, si vous voulez savoir, toutes les fois où on chante ça. Pour la nativité, pour le baptême du Christ, le samedi de Lazare, le samedi saint, le dimanche de Pâques, et toute la semaine radieuse, tous les jours de la semaine radieuse, et le dimanche de Pâques, de Pentecôte, ça fait quand même souvent, eh bien, au lieu de Saint Dieu Saint Fort, on chante « Vous tous qui avez été baptisés en Christ ». Ça, donc vous rappellerez, je vous le redis, nativité, baptême ou théophanie, samedi de Lazare, samedi saint, dimanche de Pâques, semaine de radieuse, semaine illuminée, semaine des Lumières, et dimanche de Pentecôte. Et puis, il y a un autre cas, c'est le cas de la croix, le 14 septembre. Le 14 septembre et le dimanche de la croix, c'est-à-dire le troisième dimanche de carême, eh bien, qui sont donc chaque fois, les deux fois plus exactement où on fête la croix, au lieu de chanter très chagrin, on dit « Devant ta croix, nous nous prosternons au Maître et ta sainte résurrection, nous la chantons. Pruchita le ningenam, si svinte verata, os levim, si je ne me trompe pas, peut-être de par cœur. Donc, et ça, vous l'avez remarqué, puisque ça a eu lieu il y a 2 semaines. Vous avez certainement entendu dans la liturgie qu'on n'a pas chanté le Christagion et qu'on a chanté ça. Bon. Mais on la chante souvent la même forme. C'est-à-dire que c'est dit 3 fois. Après ça, il y a la doxologie. Après la doxologie, on reprend la deuxième partie du chant. Et après, Pouternik ou avec force, on reprend l'ensemble du chant. Voilà. Je regarde l'heure. Ah, et voilà, le moment est arrivé de conclure. De conclure. Donc, je mets une petite page parce qu'au fond, je présente ce typicon de l'Église à la suite. J'espère que ce n'est pas trop monotone, mais c'est une occasion de savoir qu'est-ce qui se fait et éventuellement pourquoi on le fait. À Dieu soit la louange dans les siècles des siècles. Amen. Merci, chers auditeurs. Je regarde s'il y a des interventions. Ah oui. La réponse à propos des diacres, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas assez d'hommes dans les petites paroisses, ou bien que les hommes ne sont pas assez motivés. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des diacres. Voilà, merci à tous et à toutes.